De retour ce mardi à l'auditorium de l'Opéra de Dijon, Leonardo Garcia Larcón. Alors, officiellement, vous n'êtes plus en résidence et pourtant, c'est une maison avec laquelle vous continuez à travailler beaucoup.
Oui, je pense que c'est des liens qui s'établissent au moment des résidences pour ne plus s'arrêter plus tard. Ça veut dire que c'est des liens qui maintiennent sûrement la création. Et des ensembles comme celui des Capella Mediterranea ou du Chœur des Chambres de Namur, on a fait des créations formidables à Dijon et je pense qu'aujourd'hui on continue dans la même idée. Et j'espère que dans les années à venir, on pourra rêver aussi à partager tout ce qu'on va réaliser à Genève avec notre nouveau théâtre de la Cité Bleue, que c'est un théâtre qui pourra développer la création du théâtre musical. Alors j'espère qu'à Dijon, on sera présent aussi.
Est-ce que je décris bien votre attitude, Leonardo Garcia Larcón, si je dis que vous êtes un chef fidèle en musique, finalement, puisque au moment où nous enregistrons, vous êtes en Belgique, la Capella Mediterranea, c'est votre ensemble, bien sûr, et puis vous voici avec un petit peu moins d'une dizaine de solistes, dont évidemment, mais qui serait étonné de la trouver là, Mariana Flores.
Bien sûr. Et alors, Mariana Flores, elle est là dans cette pièce qu'on va créer en première mondiale, comme vous le savez, ça veut dire un sépulcre, une forme musicale pour la Semaine Sainte. Il donne de la vita eterna d'Antonio Draghi, une pièce composée à Vienne à la fin du XVIIe siècle. Alors, Mariana Flores, Victor Sicard, Fabio Trumpi, qui avait incarné à l'Opéra de Dijon aussi les rôles titres de l'Opéra Prometeo en 2018. Alors des solistes extraordinaires, Christopher Lowry aussi, un contre-ténor, un des meilleurs contre-ténors au monde aujourd'hui. Alors c'est vraiment des solistes extraordinaires pour incarner une pièce en première mondiale qui pour moi ça sera un nouveau diluvio universale de Falvetti, ça veut dire une création qui va faire parler d'elle autour du monde.
Il diluvio, c'était il y a une douzaine d'années.
Exactement.
Passer pour être un peu un découvreur, alors je ne sais pas si on peut dire découvreur s'agissant de Draghi, pour autant c'est un compositeur qui n'est pas très connu du public et pourtant ô combien important en son temps.
Oui, aujourd'hui par exemple on connaît bien sûr Mozart et on connaît l'histoire de Mozart avec Salieri, on connaît l'histoire que Mozart à Vienne pouvait avoir avec les compositeurs italiens parce que Vienne était d'une certaine façon une succursale italienne, vénitienne de l'opéra italien. Mais ce qui est important à savoir, c'est qu'avant Salieri, tout cela existait dès le XVIIe siècle. C'est-à-dire l'Italie, dès la naissance de l'opéra, avait envahi vraiment, vraiment Vienne. Et on connaît Cesti à l'époque de Cavalli, les compositeurs qui avaient créé des grands spectacles d'opéra. Alors plus tard, il y a Draghi qui compose la musique, mais aussi des livrets. Et il devient un musicien qui a composé plus de 120 opéras. Ce qu'on a présenté à Dijon en première mondiale, c'est un opéra qu'il avait écrit en castillan, El Prometeo, en 2018. Et j'ai complété le troisième acte parce qu'on n'a jamais retrouvé la musique. Mais il y a beaucoup de pièces sacrées aussi. Et c'est pour cela que j'aimerais montrer ces sépulcres qui, à l'époque, étaient des sortes des opéras à l'église, et à, ça veut dire des passions, mais représentées avec même des corps et de la gestuelle, et vraiment comme un opéra à l'intérieur de l'église.
Mais c'est quelqu'un qui va régner une trentaine d'années quasiment à la cour de... Alors c'est les Habsbourg de Vienne, c'est pas ceux d'Espagne.
Exactement, oui, mais c'est une cour espagnole quand même. C'est pour cela que El Prometeo était en castillan, c'est parce que chacune des fêtes ou d'anniversaires d'un prince ou d'un roi, on parle en castillan parce que les Habsbourg sont espagnols. Alors d'une certaine façon, Vienne est aussi espagnole.
Il est lui-même chanteur, librettiste, vous l'avez dit, compositeur d'opéra, ô combien prolifique, impresario à sa manière.
Oui, ça veut dire, les mots existaient, parce que par exemple, même Cavalli, qui était maître de Draghi, on l'appelait déjà impresario, ça veut dire c'est lui qui louait les théâtres, qui s'engageait avec les décors et engageait très peu de musiciens pour que finalement l'opéra soit rentable. Alors c'est un impresario. Et on l'a dit, les compositeurs étaient cela. Mais dans le cas de Draghi, c'est différent parce qu'il est à l'intérieur d'une cour. On lui commande des pièces, comme à l'époque, c'est-à-dire dès qu'on est kapellmeister, maître des chapelles, tout est une commande, soit pour la Semaine Sainte ou Noël, pour les grandes festivités religieuses, et soit pour les anniversaires, baptême, service funèbre des princes. Exactement, c'est ce qui faisait chaque compositeur en Europe au XVIIe siècle.
Leonardo Garcia Alarcón, Il dono della vita eterna, en français dans le texte, le don de la vie éternelle. Alors un programme que l'Opéra de Dijon nous annonce comme programme eschatologique universel, expliquez-moi.
Pour moi, c'est tout simplement une pièce qui parle de la puissance qui a exercé le mot pardon, même si après l'Église catholique ne l'a pas appliqué de la meilleure façon comme on le sait. Et c'est même pas une critique, c'est une réalité de tout ce qui s'est passé 12e, 13e siècle, les croisades, on oublie tout cela. Mais ici, on essaye de parler justement de la force du pardon dans l'humanité.
Alors c'est pas pour autant le combat entre les forces du bien et du mal, ça va au-delà de ça.
Ça va au-delà de ça, oui, bien sûr. C'est vraiment une transformation, une catharsis, une purification qui est exercée justement par la figure du pardon. Et aujourd'hui, dans l'actualité, le pardon qui est proposé par toutes les religions du monde, c'est la chose la moins appliquée, disons. Même si c'était une invention d'il y a 2000, 2500 ans. Et dans cette pièce, c'est primordial de voir à quel point il y a le monde infernal et le monde du péché et le monde de la mort. Et qui est en opposition, justement, avec ce que le monde chrétien propose à l'époque. Ça veut dire le pardon pour l'humanité. Et c'est une pièce très actuelle après tout ce qu'on a vécu en 2020. Tout ce qu'on a vécu avec ce qui est dans cette pièce, les dons de la vie éternelle, propose que c'est la destruction totale de l'humanité et de quelle manière on arrive à ressortir de tous les désastres qui est proposé par la mort, qui se réjouit de la destruction et la disparition de l'humanité. On va aller vivre dans cette pièce.
Est-ce que l'on peut parler d'opéra ?
Opéra à l'église. C'est un opéra à l'église parce que même on propose les décors, comme je vous ai dit, c'est-à-dire on voit à quel point ce qui intéresse, c'est pas tout simplement d'entendre comme à Rome qu'on chante à l'époque de la Passion de Christ, sinon qu'on voit les personnages habillés avec du décor. Ça veut dire que c'est vraiment un opéra à l'église.
C'est pas mise en scène, disons qu'il y a une mise en espace hein, pour ce qui est de la présentation de ce mardi.
C'est Anaïs de Courson qui a travaillé avec nous déjà à Dijon comme assistante de Jean-Yves Ruff pour La Finta Pazza, qu'on avait créée en première mondiale aussi de Sacrati. Alors c'est elle qui va nous aider à reconstruire des mouvements et à imaginer une spatialisation de cette œuvre au temps moderne.
C'est une pièce qui n'est pas très longue, on nous annonce 1h20 de musique à peu près.
Oui, c'est exactement ce qu'on a vécu avec les déluges universels, c'était 1h15, et après c'est là où on a vécu toutes les émotions possibles. Et c'est exactement cela qu'on va vivre ici. Infelice umanità dalla colpa resa impura, tua beltà non tornerà, tua beltà non tornerà. Copre l'aria oscura, ma non dura, la fugace umanità. Copre l'aria oscura, ma non dura, la fugace umanità. La fugace umanità.
Il Dono della Vita, Antonio Draghi, à la tête de la Capella Mediterranea, du chœur de chambre de Namur et de tous les solistes dont on ne va pas rappeler les noms, ce sera vous, Leonardo Garcia Larcón. C'est à 20h et on met les liens sur le site de BFC Classique.